Aujourd'hui, la classe de 4e B du collège Le Reflessoir de Bléré vous présente l'extraordinaire vie de Victor Hugo et son roman le plus célèbre, Les Misérables. Au micro, Mathis et Quentin. Dans cette émission, il y aura des lectures de textes, des discours, mais aussi des interviews de personnages, des reportages ou encore un micro-trottoir. Pendant une demi-heure, vous allez être plongé dans l'atmosphère mystérieuse et populaire des Misérables et de la vie mouvementée de Victor Hugo.
Écoutons tout de suite un micro-trottoir réalisé par Eva.
Bonjour, pourrions-nous vous poser quelques questions à propos des livres Les Misérables de Victor Hugo ?
Oui.
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 Connaissez-vous Les Misérables de Victor Hugo ?
Oui.
Moi aussi, effectivement.
Oui, je les connais.
Les avez-vous lus ?
Oui, j'ai lu la version abrégée.
Moi aussi, j'ai lu la version abrégée.
J'ai lu une des versions des Misérables.
À quoi cela vous a-t-il fait penser ? Avez-vous trouvé ce roman passionnant, ennuyeux, triste ?
J'ai trouvé ce livre très passionnant, pas du tout ennuyeux et assez triste, oui.
Moi aussi, je l'ai trouvé très passionnant et ça m'a beaucoup émue.
Moi, je m'attendais à quelque chose de très... quelque chose qui va lentement, alors qu'en fait, on est pris dans l'histoire.
Quel passage vous a le plus marqué et pourquoi ?
Le passage de la rencontre entre Cosette et Jean Valjean.
Je pense que pour moi, c'est lorsque Marcus a commencé à tomber amoureux de Cosette.
Moi, mon passage préféré, c'est quand Cosette et Jean Valjean se rencontrent.
Et à quel âge avez-vous lu Les Misérables ?
Je l'ai lu à 13 ans.
À 14 ans.
À 12 ans.
Dans quelles circonstances l'avez-vous lu ?
Je l'ai lu pour un projet de lecture en 4e.
C'était pour le même projet, mais je l'ai lu lorsque j'étais en voyage en Allemagne.
Je l'ai lu pour ce projet en français, mais je l'ai lu une partie avant aussi.
Et quel personnage vous a le plus marqué ?
Jean Valjean m'a beaucoup marqué, comme Cosette.
Moi, c'est plus Marcus qui m'a marqué.
Moi, le personnage qui m'a le plus marqué, c'est Marcus aussi, parce que c'est celui qu'on voit sur les barricades.
D'accord, merci beaucoup. Bonjour et bienvenue dans l'émission sur Victor Hugo et les populaires misérables. Nous promenons aujourd'hui notre micro-trottoir dans les couloirs du collège Le Reflessoir. Nous travaillons sur Victor Hugo et ses célèbres romans sur les misérables, écrits en 1862. Pourrions-nous vous poser quelques questions ?
Oui, bonjour, vous pouvez me poser quelques questions.
Connaissez-vous Les Misérables sur Victor Hugo ?
Les Misérables de Victor Hugo, c'est un roman, oui, je connais. J'en ai lu une partie, oui.
À quoi cela vous a-t-il fait penser ? Avez-vous trouvé ce roman passionnant, ennuyeux ou triste ?
Alors, je l'ai trouvé ennuyeux, certainement pas. Passionnant, oui, puisqu'il s'inscrit dans une époque avec des personnages qui ont tous des parcours différents. Et triste, parfois, oui, bien sûr.
Et quel passage vous a le plus marqué et pourquoi ?
Alors, le passage qui m'a le plus marqué, personnellement, c'est le passage sur les barricades avec Gavroche qui saute et qui se faufile pour ramasser les balles, tel un petit oiseau. Et il me touche particulièrement parce que c'est une scène que j'ai jouée en 4e au club théâtre avec mon prof de français, monsieur Alain Ferré. Et on a fait une barricade avec tous les copains du club théâtre. On a monté une barricade et on avait un copain Antoine qui faisait le Jean Valjean. Voilà. Qui faisait Gavroche, excuse-moi, n'importe quoi.
D'accord, merci beaucoup.
Après tous ces avis, nous allons entrer dans la biographie de Victor Hugo. Sa vie nous est racontée par Justine et Maëlie. Celles-ci nous liront ensuite un extrait du fameux discours sur la misère.
Bonjour, j'ai une question. Sais-tu qui est Victor Hugo ? Parle-nous de lui.
Oui, je vais te raconter. Son nom de naissance est Victor Marie Hugo. Il est né le 26 février 1802 à Besançon et mort le 22 mai 1885 à Paris à l'âge de 83 ans. Il est le fils d'un général d'Empire. Très jeune, il compose ses premiers poèmes et en 1816, il écrit sur un cahier « Je veux être Chateaubriand ou rien ».
Dans quel domaine de la littérature s'est-il illustré ?
À 30 ans, il est déjà poète, dramaturge, écrivain, romancier. Il est le chef du mouvement romantique.
Qu'a-t-il fait comme roman ?
Mais tout le monde connaît au moins le titre et les personnages de ses romans, Les Misérables et Notre-Dame de Paris.
Et à part écrivain, qu'a-t-il fait d'autre ?
Je sais aussi que Victor Hugo a eu une grande carrière d'homme politique. En 1848, il devient député de Paris. En décembre 1851, il s'oppose au coup d'État de Louis-Napoléon Bonaparte. Alors, il décide de s'exiler dans les îles anglo-normandes jusqu'à la fin du Second Empire, en septembre 1870.
Est-il connu que pour ses romans ?
Victor Hugo a aussi été un grand artiste. Ses dessins à l'encre, représentant des paysages fantastiques, sont célèbres.
Que s'est-il passé après son décès ?
Ses funérailles, en 1885, sont grandioses. Toute la France lui rend hommage. Il est enterré au Panthéon, parmi les autres célébrités, le 31 mai 1885.
Je te remercie d'avoir répondu à toutes mes questions.
La misère, messieurs. J'aborde ici le vif de la question. Voulez-vous savoir où elle en est, la misère ? Voulez-vous savoir jusqu'où elle peut aller ? Jusqu'où elle va ? Je ne dis pas en Irlande, je ne dis pas au Moyen-Âge, je dis en France, je dis à Paris et au temps où nous vivons. Voulez-vous des faits ? Il y est dans Paris. Mon Dieu, je n'hésite pas à les citer, ces faits. Ils sont tristes, mais nécessaires à révéler. Il y a des rues, des maisons, des cloaques, où des familles entières, vivent pêle-mêle, hommes, femmes, jeunes filles, enfants, n'ayant pour lit, n'ayant pour couverture, j'ai presque dit pour vêtements, que des nonceaux infects de chiffons en fermentation, ramassés dans la fange du coin des bornes, espèce de fumier des villes où des créatures humaines s'enfouissent toutes vivantes pour échapper au froid de l'hiver. Voilà un fait. En voici d'autres. Ces jours derniers, un homme, mon Dieu, un malheureux homme de lettres, car la misère n'épargne pas plus les professions libérales que les professions manuelles, un malheureux homme est mort de faim à la lettre. Et l'on a constaté, après sa mort, qu'il n'avait pas mangé depuis 6 jours. Voulez-vous quelque chose de plus douloureux encore ? Le mois passé, pendant la recrudescence du choléra, on a trouvé une mère et ses 4 enfants qui cherchaient leur nourriture dans les débris immondes et pestilentiels des charniers de Montfaucon. Eh bien, messieurs, je dis que ce sont là des choses qui ne doivent pas être. Je dis que la société doit dépenser toute sa force, toute sa sollicitude, toute son intelligence, toute sa volonté pour que de telles choses ne soient pas. Je dis que de tels faits dans un pays civilisé engagent la conscience de la société tout entière. Que je m'en sens, moi qui parle, complice et solidaire. Et que de tels faits ne sont pas seulement des torts envers l'homme, que ce sont des crimes envers Dieu. Vous n'avez rien fait, j'insiste sur ce point. Vous n'avez rien fait tant qu'il y a au-dessous de vous une partie du peuple qui désespère. Vous n'avez rien fait tant que ceux qui sont dans la force de l'âge et qui travaillent peuvent être sans pain. Tant que ceux qui sont vieux et ont travaillé peuvent être sans asile. Tant que l'usure dévore nos campagnes, tant qu'on meurt de faim dans nos villes, tant qu'il n'y a pas des lois fraternelles, des lois évangéliques qui viennent de toutes parts en aide aux pauvres familles honnêtes, aux bons paysans, aux bons ouvriers, aux gens de cœur. Vous avez fait des lois contre l'anarchie, faites maintenant des lois contre la misère.
Une séance people sur la famille du grand homme par Chloé et Alena.
J'ai cru comprendre que Victor Hugo avait une enfance et une adolescence mouvementées.
Oui, tout à fait. Son père étant général sous Napoléon Ier, ils ont souvent déménagé entre la France et l'Espagne. Victor perd sa mère en 1821 à l'âge de 19 ans. Son père décède 5 ans plus tard.
Parlez-nous de l'épouse de Victor Hugo. As-tu eu des enfants ?
Oui, Victor Hugo s'est marié à Adèle Fouché, avec laquelle ils auront 5 enfants, dont un mourra en bas âge. Au début, ils s'entendaient bien, mais Victor Hugo est plutôt volage.
N'avait-il pas une maîtresse ?
En effet, il a une liaison avec Juliette Drouet, une actrice de théâtre, à partir de 1833. Elle restera sa maîtresse pendant près de 50 ans.
Sa femme était-elle au courant de cette liaison ?
Adèle était au courant car Victor Hugo partait parfois en voyage avec sa maîtresse. Il faut dire qu'elle aussi a eu des amants de son côté, peut-être par dépit. Il partait assez souvent dans différents pays comme l'Espagne ou la Suisse.
Parlez-nous de ses enfants.
Le premier s'appelait Léopold. Malheureusement, il n'a pas survécu plus de 4 mois. Après ce drame, sa femme et lui ont eu une petite fille nommée Léopoldine. C'était la préférée. Victor Hugo l'a surnommée Didine. Mais elle est morte à 19 ans lors d'une croisière sur la Seine. Elle était partie avec son mari. Le vent a déséquilibré le bateau. Léopoldine, tombée à l'eau et ne sachant pas nager, s'est noyée. Son mari Charles de Vacquerie a voulu la sauver, mais s'est laissé entraîner par le courant lui aussi, sans doute pour la rejoindre dans la mort. Victor Hugo a appris cette tragique nouvelle dans le journal alors qu'il était en voyage avec Juliette Drouet, sa maîtresse. Ce fut le grand drame de sa vie. Il a consacré de nombreux poèmes à sa fille bien-aimée, dont le célèbre « Demain, dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne, je partirai ».
Quels enfants ont assuré une descendance à la famille Hugo ?
Son deuxième fils, Charles, est le seul à avoir eu des enfants. Il est notamment le grand-père du peintre Jean Hugo.
Vous nous avez parlé de 5 enfants. Qui étaient les 2 autres ?
Il a eu François-Victor, son dernier fils. Il est né en 1828. Il sera le traducteur le plus fidèle de Shakespeare. Et il mourra à l'âge de 45 ans d'une tuberculose.
Parlez-moi de son dernier enfant.
Nommée Adèle, la deuxième et dernière fille de Victor Hugo est la seule qui ait survécu à son père. Cependant, son état mental était assez précaire. Elle passera la majeure partie de sa vie en maison de santé. Elle avait des hallucinations et une tendance à la mythomanie.
Sa maladie mentale affectait-elle sa relation avec son père ?
Adèle en voulait beaucoup à son père et se sentait laissée de côté par rapport à Léopoldine, sa préférée. Mais Victor Hugo souffrait lui aussi de l'éloignement de sa seconde fille.
Combien de temps a-t-elle vécu ?
Elle a vécu 85 ans et mourra en 1915 dans une maison d'internement.
Victor Hugo n'a donc pas vu la mort de sa dernière fille ?
Non, en effet, car il meurt d'une congestion pulmonaire en 1885 à l'âge de 83 ans.
J'ai entendu parler de funérailles prestigieuses, dites-moi plus.
Il a eu l'honneur d'être exposé sous l'Arc de Triomphe, puis il a été porté au Panthéon, sa dernière demeure.
La vie de Monsieur Hugo a donc été chargée de drames et d'émotions. Merci pour ces explications détaillées sur la vie de la famille Hugo.
Sacrée séance d'émotions. Léna et Zélie vont maintenant interviewer Jean Valjean sur ses années de bagne et sa rencontre avec une âme grande et généreuse, l'évêque de Digne.
Bonjour chers auditeurs, aujourd'hui nous avons la chance d'accueillir Jean Valjean, le célèbre forçat des Misérables. Bonjour Jean Valjean, première question, pourquoi êtes-vous allé au bagne ?
Bonjour mademoiselle, je suis entrée au bagne car j'ai volé du pain pour ma sœur et ses enfants qui mouraient de faim, 19 ans en tout.
C'est terriblement injuste, pour un pain ?
Pour un pain et pour m'être évadée plusieurs fois.
Comment avez-vous vécu vos années au bagne de Toulon ?
Elles étaient terribles, j'en ai encore des séquelles. Cela m'a rendue mélancolique, j'en ai beaucoup voulu à la société.
Parlons des règles du bagne.
La règle principale, c'est que les condamnés à vie portaient des bonnets rouges, et ce avec une durée déterminée, un bonnet vert. Les bagnards étaient attachés 2 par 2, on appelait ça la chaîne. Impossible de s'enfuir, sauf quand on s'appelle Jean Valjean.
Quelles étaient vos tâches ?
Elles étaient très dures et de toutes sortes. Déchargement et chargement des marchandises, réparation des bateaux et entretien des rues, des égouts. Nous travaillions avec des marins qui revenaient de l'étranger et qui étaient porteurs de virus.
Que se passait-il à la sortie du bagne ?
On nous donnait un passeport jaune avec tous nos crimes inscrits dessus.
Effectivement, difficile de se réinsérer avec ça. Comment s'est passée votre vie après ?
Personne n'a voulu m'accueillir pour une nuit. Mais un homme de grand cœur, Monseigneur Mireille, l'évêque de Digne, m'a nourri et logé. Mais j'ai été injuste envers lui en lui volant ses couverts en argent et ses chandeliers qu'il aimait tant.
Cela s'est-il retourné contre vous ?
Après m'être fait arrêter par les gendarmes et ramener chez l'évêque, il a menti en disant qu'il me les avait donnés et ensuite il m'a fait comprendre que je devais devenir quelqu'un de bon et c'est ce que j'ai tenté de faire depuis ce jour-là.
Merci d'être venu avec nous. Au revoir.
Au revoir.
Et maintenant, écoutons Jean Valjean lors de sa première rencontre avec l'évêque.
La porte s'ouvrit. Elle s'ouvrit vivement, toute grande, comme si quelqu'un poussait avec énergie et résolution. Un homme entra. Cet homme, nous le connaissons déjà. C'est le voyageur que nous avons vu tout à l'heure errer cherchant un gîte.
Il entra, fit un pas et s'arrêta, laissant la porte ouverte derrière lui. Il avait son sac sur l'épaule, son bâton à la main, une expression rude, hardie, fatiguée et violente dans les yeux. Le feu de la cheminée l'éclairait, il était hideux. C'était une sinistre apparition. Madame Magloire n'eut pas même la force de jeter un cri. Elle tressaillit et resta béante. Mademoiselle Baptistine se retourna, aperçut l'homme qui entrait et se dressa à demi d'effarement. Puis, ramenant peu à peu sa tête vers la cheminée, elle se mit à regarder son frère et son visage redevint profondément calme et serein. L'évêque fixait sur l'homme un œil tranquille.
« Voici, je m'appelle Jean Valjean, je suis un galérien. J'ai passé 19 ans au bagne. Je suis libéré depuis 4 jours et en route pour Pontarlier, qui est ma destination. 4 jours que je marche depuis Toulon. Aujourd'hui, j'ai fait 12 lieues à pied. Ce soir, en arrivant dans ce pays, j'ai été chassé d'une auberge. On m'a renvoyé à cause de mon passeport jaune que j'avais montré à la mairie. Il avait fallu. J'ai été à une auberge. On m'a dit « Va-t'en, chez l'un, chez l'autre. » Personne n'a voulu de moi. J'ai été à la prison. Le guichetier ne m'a pas ouvert. J'ai été dans la niche d'un chien. Ce chien m'a mordu et m'a chassé comme s'il avait été un homme. On aurait dit qu'il savait qui j'étais. Je m'en suis allé dans les champs pour coucher à la belle étoile. Et il n'y avait pas d'étoile.
Madame Magloire, dit l'évêque, vous mettrez un couvert de plus.
L'homme fit 3 pas et s'approcha de la lampe qui était sur la table.
Tenez, ce n'est pas ça. Avez-vous entendu? Je suis un galérien, un forçat. Je viens des galères.
Il tira de sa poche une grande feuille de papier jaune qu'il déplia.
Voilà mon passeport jaune, comme vous voyez. Cela sert à me faire chasser de partout où je vais. Voulez-vous lire? Je sais lire, moi. J'ai appris au bagne. Il y a une école pour ceux qui veulent. Tenez, voilà ce qu'on a mis sur le passeport. Jean Valjean, forçat libéré, natif de « cela vous est égal ». Est resté 19 ans au bagne. 5 ans pour vol avec effraction, 14 ans pour avoir tenté de s'évader 4 fois. Cet homme est très dangereux. Voilà, tout le monde m'a jeté dehors. Voulez-vous me recevoir, vous? Est-ce une auberge? Voulez-vous me donner à manger et à coucher? Avez-vous une écurie?
Madame Magloire, dit l'évêque, vous mettrez un drap blanc au lit de l'alcôve.
À présent, nous allons laisser Victor Hugo en personne s'exprimer sur Les Misérables avec Lucie et Manon.
Aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir Victor Hugo à nos côtés, le plus grand écrivain du 19e siècle. C'était très inattendu, je ne pensais pas que je le rencontrerais un jour. Merci de votre présence, monsieur Hugo.
Merci de ce chaleureux accueil. Au collège de Bléré, je ne pensais pas le visiter un jour.
Cette interview porte sur l'écriture de votre plus grand succès littéraire, Les Misérables.
Je suis tout ouïe.
Bien, commençons. Première question, pourquoi avez-vous écrit ce livre?
Dans Les Misérables, je voulais dénoncer les injustices de la société, en particulier les personnes chargées de juger les coupables, coupables qui n'ont pas toujours commis ces crimes intentionnellement.
Selon vous, quelles sont les pires injustices des rues de Paris?
Pour moi, le pire serait sans doute le fait que les filles mères soient abandonnées dans la rue sans pitié, sans compassion. Les enfants sont jetés dans la rue, seuls, sans protection ni amour.
Une autre question. Qui est Jean Valjean?
C'est le fil conducteur de l'histoire. Il incarne à lui tout seul l'idée du peuple. Cependant, il devient riche car un homme charitable, l'évêque de Digne, lui a tendu la main. Cela reste quand même un parcours chaotique pour Jean Valjean, un personnage aux multiples facettes.
Pourquoi se dénonce-t-il alors qu'il est devenu un bourgeois respecté ?
Il se dénonce pour éviter qu'un innocent ne soit injustement condamné à sa place. Jean Valjean s'efforce d'être meilleur et d'assumer ses actes.
Et Cosette, pourquoi l'avez-vous créée ?
Je voulais un symbole pour les enfants martyrisés par la société impitoyable. Un matin, en me promenant dans les rues de Paris, j'ai croisé une fillette maigre, sale, affamée et vêtue de haillons. Elle correspondait parfaitement au personnage dont j'avais besoin. Au début, je l'appelais juste la petite fille. Ensuite, j'ai décidé de l'appeler Cosette.
Parlons de ceux qui l'ont recueillie. Qui est la famille Thénardier ?
Ah, si je devais décrire la famille Thénardier, je dirais que c'est la famille la plus connue de la littérature française. Les parents qui ont abandonné leurs trois garçons et qui ont fait trimer Cosette jusqu'à ce qu'elle s'épuise ont depuis longtemps dépassé le statut des simples personnages, des misérables, pour devenir un exemple incontournable du mal. Ils sont le symbole de l'avidité, de la cupidité et de la méchanceté pure.
Passons à autre chose de un peu plus joyeux. Avez-vous eu beaucoup de succès avec votre roman ?
Oui, mon roman est devenu incontournable. Il est même étudié dans les collèges. Les Misérables ont été traduits en belge, en italien, en allemand et en anglais.
Combien d'exemplaires de votre livre avez-vous vendu ?
Dès la première année, j'ai vendu 15 000 exemplaires en France, 12 000 en Belgique et 3 000 en Allemagne. Je ne pensais pas que ça aurait autant de succès, mais aujourd'hui, il se compte en millions dans le monde entier.
Avez-vous toujours pensé aux Misérables pour le nom de votre roman, ou est-ce qu'il a eu un autre nom avant ?
En 1845, j'ai pensé à appeler ce livre « Les Misères », mais finalement, j'ai opté pour « Les Misérables » car je trouvais que c'était plus parlant. Avec « Les Misérables », on pense directement à des personnages qui ont des problèmes, alors que « Les Misères », on pourrait plus penser aux actions des personnages.
Combien de temps avez-vous passé à l'écriture de votre livre ?
Je l'ai écrit en deux fois, à deux moments diamétralement opposés de mon parcours personnel et politique. En tout, ça aura duré 17 ans.
Vous êtes-vous inspiré de personnes réelles pour Les Misérables ?
Oui, je me suis inspiré de César Joseph William Regnault. C'est l'un de mes amis du Havre. Ma femme et moi le fréquentions souvent. C'est un grand bagnard qui est devenu brillant, négociant.
D'accord, merci beaucoup pour toutes ces informations et peut-être à une prochaine fois.
Je vous en prie, bonne continuation, au revoir.
Au revoir et bon retour.
Merci les filles pour cette interview. Désormais, nous laissons place à l'émouvante histoire de la petite Fantine que nous racontent Manon et Aléna.
Il y avait un enfant qui jouait dans la cour, l'enfant de la portière. L'enfant, c'était une petite fille. Allez, venez, courez pour se réchauffer, riez et chantez à haute voix. Hélas, à quoi les jeux des enfants ne se mêlent-ils pas ? C'était cette petite fille que Fantine entendait chanter. Oh, c'est ma Cosette, je reconnais sa voix. L'enfant s'éloigna, comme il était venu. La voix s'éteignit. Fantine écouta encore quelque temps, puis son visage s'assombrit.
Elle continua de se parler à elle-même, la tête sur l'oreiller.
Comme nous allons être heureuses. Nous aurons un petit jardin, d'abord. Monsieur Madeleine me l'a promis. Ma fille jouera dans le jardin. Elle doit savoir ses lettres maintenant. Je la ferai épeler. Elle courra, dans l'herbe, après les papillons. Je la regarderai.
Il avait quitté la main de Fantine. Il écoutait ses paroles, comme on écoute un vent qui souffle. Les yeux à terre, l'esprit plongé dans des réflexions sans fond. Tout à coup, elle cessa de parler. Cela lui fit machinalement lever la tête. Fantine était devenue effrayante. Elle ne parlait plus, elle ne respirait plus. Elle s'était soulevée à demi sur son séant, son épaule maigre sortait de sa chemise, son visage, radieux le moment d'auparavant, était blême, et elle paraissait fixée sur quelque chose de formidable. Devant elle, à l'autre extrémité de la chambre, son œil s'agrandit par la terreur.
« Mon Dieu, qu'avez-vous ? Fantine !»
Elle ne répondit pas. Elle ne quitta point des yeux l'objet quelconque qu'elle semblait voir. Elle lui toucha le bras d'une main et de l'autre lui fit signe de regarder derrière lui.
Il se retourna et vit. Javert.
Fantine se dressa en sursaut. Appuyée sur ses bras raides et sur ses deux mains, elle regarda Jean Valjean. Elle regarda Javert. Elle regarda la religieuse. Elle ouvrit la bouche, comme pour parler. Un râle sortit du fond de sa gorge. Ses dents claquèrent, elle étendit les bras avec angoisse. ouvrant convulsivement les mains et cherchant autour d'elle comme quelqu'un qui se noie. Puis elle s'affaissa subitement sur l'oreiller. Sa tête heurta le chevet du lit et vint retomber sur sa poitrine, la bouche béante, les yeux ouverts et éteints.
Elle était morte.
Jean Valjean posa sa main sur la main de Javert, qui le tenait, et l'ouvrit comme il eût ouvert la main d'un enfant. Puis il dit à Javert :
« Vous avez tué cette femme. »
Merci, et maintenant la lecture de la triste histoire de la rencontre entre Jean Valjean et Cosette.
Cependant, elle ne pouvait pas faire beaucoup de chemin de la sorte et elle allait bien lentement. Elle avait beau diminuer la durée des stations et marcher entre chaque le plus longtemps possible, elle pensait avec angoisse qu'il faudrait plus d'une heure pour retourner ainsi à Montfermeil et que la Thénardier la battrait. Cette angoisse se mêlait à son épouvante d'être seule dans les bois la nuit. Elle était harassée de fatigue et n'était pas encore sortie de la forêt. Parvenue près d'un vieux châtaignier qu'elle connaissait, elle fit une dernière halte, plus longue que les autres, pour bien se reposer. Puis, elle rassembla toutes ses forces, reprit le seau et se remit à marcher courageusement. Cependant, le pauvre petit être désespéré ne put s'empêcher de s'écrier « Oh, mon Dieu, mon Dieu !» En ce moment, elle sentit tout un coup que le seau ne pesait plus rien. Une main, qui lui parut énorme, venait de saisir l'anse et la soulever vigoureusement. Elle leva la tête. Une grande forme, noire, droite et debout, marchait près d'elle dans l'obscurité. C'était un homme qui était arrivé derrière elle et qu'elle n'avait pas entendu venir. Cet homme, sans dire un mot, avait empoigné l'anse du seau qu'elle portait. Il y a des instincts pour toutes les rencontres de la vie. L'enfant n'eut pas peur.
En exclusivité, un reportage en direct intitulé « Le combat de la sur la barricade ».
Bonjour, nous sommes en direct d'une barricade, rue de la Chanvrerie, en plein cœur de Paris. La tension monte entre les insurgés et les gardes nationaux. On entend des feux éclater de tous les côtés. Laissez-moi vous décrire cette barricade incroyable. Elle est faite de tout ce que les insurgés ont trouvé. Il y a des pavés, mais aussi des chaises, des tables, des tonneaux, des échelles et même une charrette entière. Ils sont nombreux, très nombreux. Et en face, il y a les soldats, baïonnettes au poing.
Vont-ils charger? Oh, j'aperçois un gamin.
Mais que fait-il? Il grimpe sur la barricade. Il se dresse tout droit. Debout, les cheveux au vent, les mains sur les hanches, l'œil fixé sur les gardes nationaux qui tirent. Il se met à chanter, mais ce gamin est complètement fou.
Il défie les gardes, il veut se faire tuer. Les coups de feu s'enchaînent, j'aperçois le gamin qui passe la barricade. Il rampe à plat ventre, galope à quatre pattes, prend son panier aux dents, se tord, glisse, ondule, serpente d'un mort à l'autre, on dirait un petit singe.
Mais c'est terrible, les gardes nationaux sont complètement fous. Ils tirent sur le gamin. Mais il est toujours en vie. On l'entend chanter,
on est
écoutez.
En terre, c'est la faute à Voltaire. Et bête à Palaiso, c'est la faute à Rousseau.
Plusieurs balles passent près de lui, mais aucune ne le touche. Et là, une balle l'arrête court. Cette fois, il s'abat la face contre le pavé et ne remet plus.
La fusillade continue. Nous devons nous mettre à l'abri. Nous vous rendons l'antenne sur cette scène tragique.
Lélio et Thomas vont nous lire la tristement célèbre mort de Gavroche.
Il rampait à plat ventre, galopait à quatre pattes, prenait son panier aux dents, se tordait, glissait, ondulait, serpentait d'un mort à l'autre et vidait la giberne ou la cartouchière comme un singe ouvre une noix. De la barricade, dont il était encore assez près, on osait lui crier de revenir, de peur d'appeler l'intention sur lui. Au moment où Gavroche débarrassait de ses cartouches au sergent gissant près d'une borne, une balle frappa le cadavre.
Fichtre, voilà qu'on me tue mes morts.
Une deuxième balle fit étinceler le pavé à côté de lui. Une troisième renversa son panier. Il se dressa tout droit, debout, les cheveux au vent, les mains sur les hanches, l'œil fixé sur les gardes nationaux qui tiraient. Et il chanta.
On est les à Nanterre, c'est la faute à Voltaire, et bête à Palaiso.
c'est la faute à Rousseau. »
Puis il ramassa son panier. Il remit, sans en perdre une seule, les cartouches qui en étaient tombées. Et, avançant vers la fusillade, alla dépouiller une autre giberne. Là, une quatrième balle le manqua encore. Gavroche chanta.
« Je ne suis pas né à notaire, c'est la faute à Voltaire. Je suis petit oiseau, c'est la faute à Rousseau. »
Cela continua ainsi quelque temps.
Le spectacle était épouvantable et charmant.
Gavroche, fusillé, taquinait la fusillade. Il avait l'air de s'amuser beaucoup.
C'était le moineau becquetant les chasseurs. Il répondait à chaque décharge par un couplet.
On le visait sans cesse, on le manquait toujours, les gardes nationaux et les soldats riant en l'ajustant.
Il se couchait, puis se redressait, s'effaçait dans un coin de porte, puis bondissait, disparaissait, réapparaissait, se sauvait, revenait, ripostait à la mitraille par des pieds de nez, et cependant pillait les cartouches, vidait les gibernes et remplissait son panier.
Les insurgés, haletant d'anxiété, le suivant des yeux, la brigade tremblait, lui il chantait. Ce n'était pas un enfant, ce n'était pas un homme, c'était un étrange gamin fée. On eût le dit, le nain, invulnérable de la mêlée.
Les balles couraient après lui, il était plus leste qu'elle. Il jouait, on ne sait quel effrayant jeu de cache-cache, avec la mort. Chaque fois que la face camarade du spectre s'approchait, le gamin lui donnait une pichenette.
Une balle, pourtant mieux ajustée, ou plus traître que les autres, finit par atteindre l'enfant faufolé. On vit Gavroche chanceler, puis il s'affaissa. Toute la barricade poussa un cri. Mais il y avait de l'anté dans ce pygmée. Pour le gamin, toucher le pavé, c'est comme pour le géant qui touchait la terre.
Gavroche n'était tombé que pour se redresser. Il resta assis sur son séant. Un long filet de sang rayait son visage. Il éleva ses deux bras en l'air, regarda du côté d'où était venu le coup et se mit à chanter.
« Je suis tombé par terre, c'est la faute à Voltaire. Le nez dans le ruisseau, c'est la faute à... »
Il n'acheva point. Une seconde balle du même tireur l'arrêta court. Cette fois, il s'abattit la face contre le pavé et ne remua plus. Cette petite grande âme venait de s'envoler.
Et maintenant, du jamais vu sur une émission de radio, les funérailles de Victor Hugo en direct.
Bonjour à tous. C'est donc aujourd'hui que la France enterre son grand homme.
Le cortège effectue un long trajet dans Paris, de l'Arc de Triomphe jusqu'au Panthéon. C'est là que Victor Hugo sera enterré.
Il est passé devant l'Assemblée nationale et le voici, maintenant, devant la cathédrale Notre-Dame de Paris, en hommage à l'un de ses romans les plus célèbres.
Le corbillard est suivi par ses petits-enfants, Georges et Jeanne, que Victor Hugo aimait tant, et le reste de la famille.
Viennent ensuite les officiels et les délégations étrangères. Une délégation de Besançon, ville natale du poète, une délégation de la presse et 4 sociétés artistiques.
Que dommage réunis. 12 jeunes poètes, choisis par la famille, terminent le défilé. Le cercueil de Victor Hugo est maintenant placé sous l'Arc de Triomphe, drapé de noir, sur un immense catafalque. Au sommet de celui-ci sont disposées les gerbes et couronnes des funérailles. C'est grandiose! Certains trouveront étonnant que les funérailles de Victor Hugo aient lieu aujourd'hui, lundi, au lieu de dimanche.
C'est que les gendarmes avaient peur des manifestations ouvrières.
En effet, on sait en effet que Victor Hugo était très populaire parce qu'il avait dénoncé la misère du prolétariat.
Souvenons-nous que Victor Hugo est né il y a 83 ans, le 26 février 1802. Il représente un siècle à lui tout seul.
Nous rendons l'antenne à vous, Radio Campus.